Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, rejoignez-nous, venez parler du processus de paix au Mali. Est-il en danger? Nous vous donnerons la parole dans un instant, ce sera notre débat du jour. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme promis, nous retrouvons Fayala, toujours en ligne de Cancan en Guinée. Vous êtes avec nous, Fayala?
Oui.
Voilà. Samuel Karkanag, chercheur à l'IRIS, spécialiste du Kazakhstan, est également avec nous au téléphone. Samuel Karkanag, on répondait à quelques questions de Fayala juste avant le journal sur la réélection de Nursultan Nazarbayev au Kazakhstan. Cinquième mandat pour ce président. Il a obtenu 97,7% des suffrages exprimés. Et Fayala, vous aviez une dernière question. Fayala?
Pourquoi il n'y a pas une réaction beaucoup plus forte de la part de la communauté internationale?
Ah, pourquoi il n'y a pas eu de réaction plus forte? Effectivement, vous nous disiez, Samuel Karkanag, qu'il y avait eu des réactions de l'OSCE, de l'Union européenne, mais enfin des réactions, somme toute, modérées.
Oui, alors effectivement, les réactions sont d'autant plus modérées que le Kazakhstan est en fait un pays riche en hydrocarbures. C'est souvent la raison pour laquelle les critiques se font moins fortes. Le Kazakhstan en fait un sous-sol assez riche. Il y a beaucoup donc de gaz, de pétrole. Il y a aussi de l'uranium, de l'or, divers métaux. Donc ça, il représente des opportunités assez grandes pour de nombreuses compagnies, pour l'alimentation en énergie de l'Union européenne notamment. Donc voilà, on va critiquer un petit peu moins le Kazakhstan que d'autres pays, d'autant que il faut bien le reconnaître, Nazarbayev a développé son pays de façon relativement éclairée, oui. Comparé par exemple à son voisin ouzbek, qui a pu faire des choix un peu moins heureux et avec un caractère un peu plus volatile, oui. On va dire, vis-à-vis de ses partenaires.
Développement assez spectaculaire du Kazakhstan, avec des taux de croissance de 6-7% ces dernières années, quoique économiquement le pays va un peu moins bien depuis la baisse des cours du pétrole. C'est vrai que le pays subit de plein fouet ce contre-coup, également le ralentissement de la Russie. On parlait tout à l'heure des relations pour le moins chaleureuse et amicale entre le Kazakhstan et la Russie. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Samuel Karkanag. Merci de nous avoir éclairé davantage sur la situation de ce pays, qui est immense, on l'a pas dit, mais enfin, c'est un pays grand comme l'Europe de l'Ouest. Et Fayala, on vous souhaite évidemment une belle journée à Cancan, en Guinée. On va parler maintenant de la situation au Mali et du processus de paix. Hier, le chef de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, a dit craindre pour le processus de paix. Il est en danger, a-t-il dit. Alors c'est vrai que ces derniers jours, les hostilités ont repris. Lundi, les groupes pro-gouvernementaux ont chassé les rebelles de la ville de Ménaka. Le lendemain, du coup, en représailles, la rébellion a attaqué la garde nationale. Il y a eu, d'ailleurs, lors de cette attaque, deux gardes nationaux tués et un enfant. Et au même moment, hier après-midi, des combats ont opposé des rebelles à l'armée malienne. Ces événements se sont déroulés près de la frontière mauritanienne. Alors comment expliquez-vous ce regain de tension alors que théoriquement dans 15 jours, le 15 mai, le gouvernement et les groupes rebelles sont censés signer l'accord de paix? Êtes-vous optimiste, pessimiste? Comment voyez-vous la situation au Mali? 33 9 693 693 70. Issouf, bonjour.
Bonjour à vous, Juan Gomez, et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Bamako, vous êtes optimiste ou pessimiste au regard des événements de cette semaine sur le terrain?
Alors là, monsieur Juan Gomez, je dois vous avouer que la signature de cet accord, c'est une bonne chose, c'est pacifique, et c'est encore un pas vers la paix, mais je dois tout de même quand même vous dire que ce n'est pas totalement la paix, puisque c'est vrai que la communauté internationale également avait endossé le Mali, mais est-ce que dans cet endossement, le Mali aura tous les moyens de satisfaire les accords qui seront signés sous peu? Parce que récemment, avec les regains des tensions, les attaques à Bamako, hier tout près également à l'intérieur du Mali, donc ce serait quand même important que la communauté internationale mette tous les moyens adéquats. Il ne s'agit pas seulement d'accompagner le Mali, mais du coup, il faudrait quand même nous mettre les moyens aussi à disposition pour que juste après cet accord, les parties paraphées soient mises en œuvre également, non seulement par Bamako, eux qui les bénéficiaires aussi, qui sont également au sud
mais
du Mali,
ils souffrent.
Au nord du Mali, bénéficient tous là, oui.
Ils souffrent. Vous parlez comme si c'était une évidence et que l'accord sera signé dans 2 semaines.
Non, je sais que c'est pas totalement une évidence parce que pour quelles raisons ça a été reporté à maintes reprises. Donc je parle dans une possibilité au cas où ça serait signé. Il ne faut pas que le Mali soit lancé seul dans la guerre. Il faudrait que nous ne laissions pas du tout le Mali dans la gueule de l'eau. Parce que je veux que la communauté internationale s'assume intégralement. C'est de ce côté-là que je voudrais peut-être m'appuyer. Parce que ce que vous ne savez pas, le Mali, tout comme beaucoup de Maliens, pense que la France est derrière le MNLA. Et on ne peut pas être à la fois juge et parti. La communauté internationale veut aider le Mali, mais en réalité, guette aussi les ressources minières qui sont également dans ces régions du nord du Mali. Et regardez, jusqu'à présent, on n'a même pas fait l'inventaire des ressources naturelles qui sont là-bas. Et est-ce que l'État malien est encore en mesure également de bénéficier au cas où il y aurait également des exploitations de toutes ces ressources naturelles? Donc, du coup, la communauté internationale, quand même, non seulement doit aider le Mali à avoir un processus de paix et durable, mais aussi s'asseoir concrètement avec le Mali, dire que le fond du problème, tout le monde le sait, c'est vrai, l'eau est trouble, mais nous voyons tous au fond du problème que c'est les ressources minières qui sont là-bas. Donc, asseyez-vous directement avec le Mali. Et mettez le point sur les îles, c'est aussi important que cela est très simple aussi que cela, effectivement.
D'accord, asseyez-vous avec le Mali, c'est le message que vous lancez aux rebelles du Nord, c'est ça, hein?
Oui, c'est tout à fait.
Non, je voulais être sûr. En tout cas, vous avez l'air bien optimiste. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que les rebelles du Nord, eux, disent vouloir paraffer l'accord dans les prochaines semaines. Ils l'ont dit d'ailleurs dimanche dernier, mais paraffer ne signifie pas signer. Et la nuance a quand même toute son importance. Les rebelles du Nord continuent à avoir un certain nombre de revendications, comme la reconnaissance officielle de l'Azawad. L'Azawad, c'est ainsi que les rebelles du Nord appelle le nord du pays, l'Azawad, en tant qu'entité géographique, politique et juridique. Avec nous, Mahaman de Paris, bonjour.
Bonjour, Rowan.
Vous partagez quand même l'optimisme formulé à l'instant par Issouf ou pas?
Optimiste, j'aimerais bien être optimiste, mais malheureusement, l'attitude du gouvernement malien ne me permet pas d'être optimiste sur une paix. Sur un accord de paix. Parce
pourquoi?
Que jusque-là, je.
Que reprochez-vous au gouvernement malien?
Parce que je pense que lorsqu'on est avec des partenaires, lorsqu'on veut discuter, on veut chercher la paix, on ne dit pas que voilà, on a fini de discuter, les discussions sont closes, on ne met pas de date limite, on n'impose pas. Et je pense qu'ils ne sont pas ouverts à la discussion et l'ont fait savoir à la CEMA et à la communauté internationale.
Mahaman, ça fait 8 mois que les discussions ont lieu. Vous pouvez pas dire que le gouvernement malien ne veut pas discuter.
Monsieur Juan Gomez, vous savez bien que moi, que la Côte d'Ivoire a été divisée pendant 10 ans. Vous parlez de 8 mois. 8 mois pendant lesquels les deux protagonistes se sont rencontrés à peu près 3 fois par 3 jours. C'est pas possible. 8 mois n'est pas. Le problème, il est très profond. 8 mois ne suffit pas pour résoudre ces problèmes.
Mais le problème de fond, excusez-moi, ce que demandent les rebelles, c'est l'autonomie, voire le fédéralisme, voire même dans un premier temps, on s'en souvient, l'indépendance. On sait que sur ces points-là, le gouvernement ne veut surtout pas en entendre parler. Donc à quoi bon continuer à discuter sur l'indépendance du Nord?
Rouen, en 50 ans d'indépendance, le Nord ne dispose d'aucune infrastructure routière, sanitaire, ni socio-éducative digne de ce nom. En 50 ans d'indépendance, le Mali n'offre aucune perspective de développement ou de progrès aux populations du Nord, surtout pas aux jeunes. En dehors de l'invasion, de la guerre, de l'occupation, de l'insécurité et de l'exil forcé vers le Sud ou les pays limitrophes, tout porte à croire que le Nord n'a point d'avenir dans ce Mali tel qu'on le connaît, tel qu'il est gouverné aujourd'hui. La nécessité s'impose de réformer l'État, de redistribuer le pouvoir politique pour permettre aux populations de prendre le contrôle et le levier du développement, de protéger leur culture et leur identité.
Et donc,
vous savez très bien, Rouen, ce n'est pas que les Keltamashek de région du Nord. On a connu des rébellions les années passées, mais cette fois-ci, on assiste à une révolution. Les Keltamashek comme les Tsongoui, comme les Arabes, comme le peuple, partagent ces sentiments d'injustice et d'abandon.
Oui, enfin, en même temps, d'abandon, il y a qu'à voir, par exemple, ne serait-ce que l'actualité récente, Ménaka, les troupes pro-gouvernementales qui reprennent le contrôle de Ménaka, et dans la foulée, vous avez quand même 700 personnes qui descendent dans les rues de Ménaka pour saluer le départ des rebelles. Ces rebelles sont-ils à ce point-là soutenus par la population? On peut quand même se poser la question. En tout cas, même ces manifestants sont allés vers le camp où se trouve l'armée malienne, puisque l'armée malienne est cantonnée dans la ville de Ménaka, et elles ont, les populations, réclamé que l'armée puisse sortir pour contribuer à la sécurité de cette ville qui a donc été reprise lundi. 33 9 693 693 70. Issoufou, vous êtes à Gao, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour tous les auditeurs de RFI.
Bienvenue, on vous écoute sur la situation dans votre pays et le processus de paix.
Oui, bon, vous savez que ces dernières semaines, la situation est marquée par la prise de Ménaka et aussi quelques foyers de tension au niveau de Tombouctou, la région de Tombouctou, à Léré et aussi Goundam.
Oui, et donc ?
Voilà. Voilà, donc moi je pense que oui, c'est vrai. Donc quand on voit les attaques de Ménaka, on sait que vraiment les autres aussi vont y riposter, ça c'est très normal. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose qui peut aussi qui peut contrecarrer le processus de paix. Et je suis vraiment optimiste par rapport à la signature du document, parce que je pense qu'à un certain niveau, si les protagonistes n'arrivent pas à aller sur la table, la communauté internationale doit prendre ses responsabilités et peut-être même aller jusqu'au désarmement. Parce que la communauté internationale a ce devoir et aussi a cette force de pouvoir faire.
Prendre ses responsabilités, aller jusqu'au désarmement, c'est-à-dire il faut que la communauté internationale désarme par la force les groupes rebelles qui ne voudront pas signer l'accord de paix.
Oui, bien évidemment, parce que c'est des groupuscules de personnes. Quand vous voyez, il y a eu des marches, il y a eu des manifestations, mais vous savez qu'en tout cas, c'est des poignées de personnes qui ont pris les armes et prennent en otage toute une communauté entière, sinon toutes des populations entières. Donc je pense que la communauté internationale connaît déjà la zone, et la communauté internationale qui a pris les armes et qui sont la population qui est en train de souffrir aujourd'hui. Et je pense que la communauté internationale doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de cette crise-là et aller vers une paix durable.
Merci Issoufou de nous avoir appelé de Gao, la diaspora malienne. On l'a déjà entendu depuis le début du débat, mais elle souhaite vivement prendre part à la réflexion ce matin. Makalou, vous êtes à Paris, bonjour.
Oui, bonjour Anne Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous relativisez tout de même les événements de ces dernières semaines, les combats d'hier par exemple.
Oui, vous savez, Wangome, tout ça, c'est des manœuvres dilatoires, tout ça, c'est des manœuvres pour saboter le processus de paix. Mais ce que je vous dis, Wangome, c'est que cette fois-ci, le Mali et la communauté internationale sont décidés à aller vers la paix. Et quelles qu'en soient les conséquences, je pense que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, l'a bien dit, le train Mali va avancer. Donc, que deviendra ces milliers d'enfants dans le Nord qui n'aillent pas à l'école depuis plus de 3 ans. Que vont-ils devenir, Juan Gomez? Vous avez vu, vous l'avez dit tout de suite, la liesse populaire à Ménaka.
Enfin, il y avait 700 personnes. Il y avait 700 personnes quand on parle de liesse populaire.
Exactement. Bon, donc ça, c'est une réponse à ces groupes qui disent qu'ils défendent les habitants du Nord.
Oui, mais si ces groupes ne signent pas l'accord dans 2 semaines. Que doit-il se passer?
Il y aura plus de négociations, Van Gomez. La paix, ça sera imposé. À partir du 15 mai, la paix, ça sera imposé. Donc, puisque il passe 8 mois de négociations, je pense que la population souffre. Tout le monde en a marre. Tout le monde est fatigué. Les populations du Nord sont fatiguées. Même du Sud sont fatiguées. Je pense qu'il n'y aura pas de développement sans paix. Oui. Donc, la paix, il faut
l'imposer. Comment peut-on imposer la paix à des groupes plus ou moins importants, à vous entendre, Makalou, mais avec des groupes armés?
Oui, mais dans l'accord, il y a des dispositifs qui le disent. Hein. Tous ceux qui ne déposeront pas et à partir du 15 mai, tous ceux qui à travers la signature, on saura qui est pour la paix et qui n'est pas pour la paix. Oui. Donc ceux qui auront des armes, voilà, et en paieront les conséquences.
C'est-à-dire qu'ils seront sanctionnés, c'est ce que prévoit d'ailleurs le Conseil de sécurité de l'ONU, qui menace de sanctionner tous ceux qui reprennent les hostilités et violent le cessez-le-feu. Merci de cette réaction. Bonne journée, on retourne au Mali, à Kenyeba, c'est dans la région de Kaye. Bonjour Anidou.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute
d'abord,
Anidou.
D'abord, je me porte en faux contre l'auditeur de Paris qui disait que le gouvernement a dit que les discussions sont finies. Ils ont dit que le gouvernement malien dit que les négociations sont terminées. Mais la porte du dialogue n'est pas fermée. La porte du dialogue, ce sont des Maliens. Aujourd'hui, moi, je suis optimiste qu'à partir du 15, si on signe les accords, nous allons continuer à dialoguer avec nos frères. Je l'ai dit, Mohamed Djeri, le vice-président du NL est là, c'est mon cousin direct. Ouais. Et aujourd'hui, dès qu'il y a l'accord, oula, même si la SEMA n'est pas signée,
ouais,
aujourd'hui, on est obligé de les amener. Au nord, comme ceux qui connaissent un proverbe du nord disait, une main sale revient à son propriétaire.
Mmh. Aujourd'hui, donc il faut les obliger à venir, mais enfin c'est bien beau de dire il faut les obliger à rejoindre la table pour signer l'accord de paix. On va voir si Samba, qui nous appelle de Genève, a le même optimisme. Bonjour Samba.
Bonjour Gomez et bonjour aux auditeurs.
On peut obliger véritablement les groupes armés à signer l'accord le 15 mai?
Oui, parce que quand on regarde la situation actuelle au Mali et puis tout ce qui s'est passé récemment, et la CEMA est capable, si elle le veut toutefois, de signer cet accord le 15 mai.
Mmh.
Et maintenant, par rapport à ce qui s'est
passé... Mais si elle le veut, en même temps, elle ne se retrouve pas dans cet accord. Et la CMA, donc la coordination des mouvements de la Zawad, qui regroupe donc plusieurs mouvements rebelles, dit « Mais la population du Nord ne se retrouve pas dans cet accord ».
Non, mais elle ne représente pas toute la population du Nord, ça c'est des balvernes. Et même le gouvernement du Mali a fait des réserves depuis 12 pages par rapport à cet accord. Donc c'est pas un accord parfait, mais ça peut être une base de négociation et une base d'évolution. Et j'aimerais revenir par rapport à ce qui se passe. Il faut qu'on suit les responsabilités des événements qui viennent de se passer au Mali, surtout à Menaka. C'est simplement un groupe d'autodéfense qui est arrivé à déloger les MLLA. Et cette organisation MLLA arrive à faire tête à toute une communauté internationale. Mais là, on ne comprend plus rien. Mmh. Il va falloir que la communauté internationale commence à peser de tout son poids dans ces négociations, poser des sanctions.
C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train de nous dire, Samba, que le poids militaire du MNLA, finalement, il ne pèse pas grand-chose. Puisqu'on a vu des groupes pro-gouvernementaux, groupes d'autodéfense Touareg, chasser ces rebelles de Menaka assez facilement.
Mais bien sûr. Donc, il faut que la communauté internationale use de tout son poids à amener ces gens à signer l'accord pour qu'on puisse rentrer dans ce processus de paix.
Et sinon?
Parce qu'on ne peut pas faire la paix sans une partie. Il faut que toutes les parties s'engagent à aller dans ce sens. Et la CMA, jusqu'à preuve du contraire, ne fait pas ses pas. Il est toujours dans son comportement belliqueux et irrationnel et irresponsable.
Mmh.
Et quand vous regardez...
Et si en deux mots pour conclure, et ce sera le mot de la fin de cette émission, et on y reviendra évidemment dans les prochains jours, si la CMA refuse de signer le 15 mai, que doit-il se passer?
Eh bien, il faut les sanctionner.
De quelle façon? Quelles sanctions? Comment sanctionne-t-on des groupes armés?
Il faut commencer d'abord à geler les positions, les avoirs de ces leaders de ces différentes organisations, et s'il le faut, il faut appuyer l'armée malienne à recouvrer l'intégrité territoriale du Mali. Mmh. C'est aussi facile que ça.
C'est aussi facile que ça, dites-vous. Le mot de la fin, je pense que cette dernière phrase fait réagir de nombreux auditeurs de l'autre côté du poste. Si c'était si facile, je pense que les accords auraient été signés depuis très longtemps. Merci à tous de votre fidélité. Demain, la Libre Antenne, comme tous les vendredis, vos réactions, vos commentaires sur l'actualité de votre choix. Dans 10 minutes, n'oubliez pas, priorité santé avec Claire Edon. Claire qui est toujours au Sénégal, à Dakar, à l'occasion d'une conférence sur les médicaments contrefaits et avec ses invités, Claire nous propose de voir comment améliorer l'accès aux médicaments en Afrique. Belle journée à tous, à demain.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et paiement mobile.